Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre podcast basket en compagnie des journalistes de l'équipe. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des personnalités les plus fortes de NBA, Jimmy Butler, un dur au mal, un parcours cabossé, un basketteur souvent sous-estimé, mais qui devient l'un des tout meilleurs joueurs du monde lorsque débutent les playoffs. L'arrière-ailier de 33 ans a été cette saison le grand artisan de la victoire surprise de Miami face à Milwaukee au premier tour. Et le Heat actuellement mène 3-2 contre New York, aux portes donc d'une nouvelle finale de conférence. Pour disséquer le jeu et le caractère de Jimmy Buckets, j'accueille notre correspondant à New York, Maxime Aubin. Hello Max.
Salut Gaëtan, bonjour à tous.
Alessandro Pizzus est avec nous. Salut Sandro.
Salut, salut.
Et enfin, Samy Sadik. Bienvenue, Samy.
Bonjour, Gaëtan. Bonjour à tous.
Allez, tout le monde est prêt. Début du game. Les gars, je voudrais commencer par une petite colle, une petite question pour débuter ce podcast. Je vous cite quatre joueurs. Jordan Hamilton, Jajuan Johnson, Marshawn Brooks et Nolan Smith. Qu'est-ce que ces quatre joueurs ont en commun ?
Je l'ai regardé avant donc d'avoir été drafté plus haut que Jimmy Butler.
Oui, tout à fait. Jimmy Butler, 30e choix seulement de la draft 2011. Samy, puisque tu as regardé la draft, alors raconte-nous à son arrivée dans la Ligue, Jimmy Butler, quel type de joueur on attend qu'il devienne ?
Ben, on s'attend à ce qu'il contribue, entre guillemets, d'un côté du terrain, la défense. On n'attend pas grand-chose de l'autre côté. NBA Draft Room, l'idée de son profil, qui résumé en quelques lignes, ça va être un ailier remplaçant qui va défendre le plomb. C'était ce qu'il mettait. Et ce qu'on attend de Jimmy Butler à cette époque, c'est ce que Chicago attend de lui quand il le draft, puisqu'il part à Chicago avec le 30e choix, c'est d'avoir un renfort défensif de plus pour Tom Thibodeau, qui est un entraîneur qui aime voir ses équipes défendre le plomb. Jimmy Butler, il sort de Marquette, qui est une université donc de première division universitaire américaine, mais qui n'est pas une université parmi les Kentucky, les Duke, les autres universités phares du pays. Il a fait 3 ans à Marquette. La première année, il était remplaçant derrière notamment Wesley Matthews, qui a été lui pour le drafter en NBA également 2 ans plus tôt. Et les 2 dernières saisons, il est à peu près à 16 points, 6 rebonds de moyenne, donc c'est des bonnes statistiques. Mais ce n'est pas des statistiques qui épatent toute la mairie, qui en feraient un lottery pick. En fait, ce qui plaît vraiment, c'est sa défense, son caractère et la sensation qu'il va pouvoir être une pièce pour une équipe qui cherche à aller loin en play-off.
Et c'est marrant que tu parles de cette fameuse draft 2011 et notamment le 27e choix qui est effectivement Johnson qui avait été pris par les Celtics parce que Doc Rivers, qui était le coach des Celtics à cette époque, avait dit que c'était un des grands regrets de sa carrière à Boston, c'est d'avoir loupé Jimmy Butler parce qu'il pensait qu'il avait justement toutes les qualités pour faire un bon Celtic, on va dire, ces joueurs un peu durs au mal, durs, très 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 forts défensivement et qui avaient une grosse marge de progression. Et effectivement, quand on voit certains joueurs qui ont été pris avant Jimmy Butler, on se rend compte que voilà, certaines franchises ont peut-être pas décelé le potentiel du joueur. Alors après, attention, c'était déjà un bon joueur, il est sélectionné en 30e position par les Bulls, mais il faut pas oublier qu'en NBA, quand vous faites 3 ans, donc quand vous faites un cursus complet à l'université, souvent ça vous fait reculer dans la draft parce que vous êtes drafté forcément un peu plus vieux.
Surtout que Butler, il commence même pas à Marquette, pardon, il commence à une petite université du coin au Texas en fait, ouais. Il est même pas sur les radars la première année, donc sa cote, elle part déjà de très très bas.
Et après, donc ouais, avec 3 ans à Marquette, forcément, t'es drafté à 22, 23 ans, donc t'as une carrière, on va dire, en NBA qui va être un peu moins longue qu'un joueur qui va tout de suite, après une année d'université, être drafté. Et puis il avait un profil quand même, là maintenant, on connaît le Jimmy Butler qui tourne à 22, 23 points en saison régulière, encore plus en play-off, mais au début, c'était pas trop ça, il a eu besoin de 2 saisons pour un petit peu s'acclimater, pour trouver un peu son rythme offensivement, donc c'était pas forcément tout de suite un joueur extraordinaire offensivement.
Maxime, toi qui assistes à la série actuellement entre New York et Miami, est-ce que c'est quelque chose qui revient dans le discours de Jimmy Butler, le fait d'avoir été longtemps sous-estimé? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui dont il se nourrit pour, avec une espèce d'esprit de revanche, pour dire bah voilà, vous m'avez sous-estimé, mais je vaux bien plus que ce que vous croyez?
Complètement. Bah déjà, on peut dire qu'il a changé de dimension complètement, puisque aujourd'hui, tout le monde le respecte comme le grand joueur du Heat, le grand joueur de la série aussi, parce qu'il a été déjà été impressionnant au premier tour, mais aussi pendant la série. Mais oui, mais ce qui me marque, pour l'avoir vu en conférence de presse, pour l'avoir vu dans le vestiaire aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de se fabriquer des ennemis, en fait, d'être dans l'antagonisme pour se motiver, pour performer. C'est un peu moins évident sur la série face à New York, puisque j'ai l'impression que le Heat joue un peu avec le frein à main, parce que On a l'impression que c'est assez finalement facile pour eux et que ça va le faire, mais contre Milwaukee, c'était d'une évidence absolue. Et j'ai bien aimé son duel avec Jrue Holiday qui défendait sur lui pendant la série. Faut voir comme il a pu l'insulter, comme il a pu être extrêmement violent avec lui tout le long de la série en disant que voilà, sur chaque action, je vais te mettre la misère, je te possède, t'es trop petit, t'es pas au niveau. Et c'est marrant de voir comment il peut switcher justement et passer d'un mec qui est hyper calme, qui contrôle le jeu, à d'un coup un peu péter des câbles et essayer de se fabriquer un ennemi pour essayer de le battre, quoi.
Alors, on a fait une petite ellipse. On parlait de sa draft en 30e position par Chicago en 2011 jusqu'à ses playoffs actuellement avec Miami. Entre-temps, il y a eu une progression linéaire avec Chicago, le passage à Minnesota, à Philadelphie. Il est devenu, tu l'as dit, Maxime, un des meilleurs joueurs de NBA, en tout cas un joueur respecté, référencé. Est-ce qu'on peut revenir peut-être, Samy, un peu sur cette progression? Personne s'attendait à ce qu'il devienne All-Star. On en parlait, c'était essentiellement un défenseur. Comment il est allé chercher ce statut de joueur star de la Ligue?
En fait, il a commencé à Chicago par gratter ses minutes, si on peut dire, en défendant vraiment. C'est Tom Thibodeau, on l'a dit, c'est un entraîneur qui aime la défense. Donc, il a vu Butler bien défendre, il lui a petit à petit fait confiance. Il a aussi bénéficié des blessures de Derrick Rose, qui faisait des bouts de saison pendant que Butler arrivait. Et en fait, en 2014-2015, la première saison où il est All-Star, on voit avant qu'il y a eu des progrès dans son jeu offensif, qu'il soignait un peu plus ses drives, il arrivait plus à obtenir des tickets de shoot dans cette attaque de Chicago. Mais en 2014-2015, on parlait de joueurs sous-cotés. Chicago lui propose, avant la saison, 44 millions de dollars sur 4 ans, une prolongation. Et Butler va la refuser en disant « Non, je vais parier sur moi-même, je sais que je vaux plus que ça. » Et il attaque la saison avec une fin qu'il n'avait peut-être pas depuis son entrée en NBA, qui était de prouver à tout le monde sa valeur avec un vrai statut dans l'effectif de Chicago. Là, il défend toujours sur le meilleur extérieur adverse chaque soir, LeBron ou les autres top ailiers, top arrière de la Ligue. Mais il va petit à petit commencer à se faire un surnom, Jimmy Buckets, Jimmy qui met des paniers, entre guillemets, parce qu'il peut prendre feu, en fait. On se rend compte qu'offensivement, c'est un joueur qui a on parlera de ses qualités plus tard, mais qui a un jeu à mi-distance, qui a un jeu de mid-range qui est très impressionnant, qui a vraiment des qualités athlétiques sous-estimées, qui peut finir au panier, qui peut finir après contact. On se rend compte qu'il a ce jeu offensif qu'on sous-estimait, qui se complète à un jeu défensif qui fait de lui l'un des meilleurs two-way players de la Ligue, et donc un All-Star.
D'ailleurs, le surnom Jimmy Bucket, c'est Lou Holdeng qui lui a donné ce surnom, et c'est Jimmy Butler qui le dit. Ça a été un mentor pour lui, tout simplement, parce que Lou Holdeng, c'était un ailier qui était, on va dire, un peu plus offensif que lui, qui était plus dans le scoring. Il a beaucoup appris auprès de lui. Je pense aussi, tu l'as dit, il y a eu des blessures. Il y a eu la blessure de Derrick Rose en 2013-2014, qui l'a poussé à prendre plus de responsabilités. D'ailleurs, même quand Derrick Rose était revenu, lui, il avait dit que il se considérait comme le meneur des Chicago Bulls. Et c'est comme ça qu'il a un petit peu... j'ai presque envie de dire qu'il a élargi sa palette, en fait. C'est devenu presque... Alors attention, c'est devenu un espèce de mini LeBron, quoi. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il peut dicter le tempo. C'est un bon passeur. C'est devenu un bon scoreur. Tu l'as dit, en mid range. Franchement, il y a Kevin Durant, il y a ce genre de joueur, et il est vraiment assez proche maintenant de ce niveau-là en mid range. C'est un ailier qui est un petit peu à contretemps, qui prend pas beaucoup de tirs à 3 points, quand met très peu, même si. Dans le passé, quand il était à Chicago, il en prenait un minimum, et il avait un pourcentage assez correct. Mais c'est surtout, en fait, ces années à Chicago, n'oublions pas quand même qu'il est drafté par Chicago à une époque où Chicago est une très bonne franchise, est un prétendant au titre, et très rapidement, il doit se frotter à des LeBron James époque Miami, époque Cleveland après, et ça, c'est une expérience, on va dire, une espèce d'accélération, quoi. C'est-à-dire qu'il a été tout de suite dans le bain. Lui, il n'y a pas eu vraiment de temps de repos où on prend quelques saisons, on est au calme, on joue pas les playoffs. Non, lui, tout de suite, il a joué les playoffs. Tout de suite, il a été dans le dur face à des adversaires qui avaient tout à fait un autre niveau, quoi. Et c'est ça qui l'a fait progresser, notamment offensivement.
Maxime, quel type de joueur aujourd'hui il est capable de peser sur le match de différentes façons? On en parlait. Quelles sont ses attitudes? Qu'est-ce que tu vois, toi, depuis les bords du terrain?
Ouais, c'est intéressant parce que justement, il était en conférence de presse hier et il disait, hier, il a fait une prestation, on va dire, un peu moyenne. Enfin, moyenne pour lui, c'est quand même 19 points, 6-7 rebonds, 6-7 passes. Mais il disait hier, je suis pas un scoreur déjà, vous le savez, je suis beaucoup plus que ça, en fait. Et c'est assez vrai, et c'est ce que Sandro disait, finalement, c'est un joueur extrêmement complet, en fait, qui est devenu extrêmement complet. Il a une très bonne mécanique de shoot et qui arrive à vraiment faire imprimer son rythme dans la rencontre. Voilà, il arrive à être toujours assez calme, et faire les choses très lentement sur le terrain. Et puis tout à coup, il va faire voilà l'action, accélérer, faire le bon geste. Hier soir, c'était encore assez évident malgré son match encore une fois un peu moyen. Tout à coup, il met le contre qu'il faut sur Barrett qui aurait pu être décisif à la fin. Bref, voilà, c'est un joueur qui est devenu extrêmement adroit et extrêmement complet.
Ouais. Ouais, et puis juste un dernier truc, c'est un intercepteur de génie. Là, c'est pas seulement les stats, hein, c'est un joueur qui a un sens du timing à ce niveau. Sur ces 15 dernières années, j'ai rarement vu un joueur. Alors, il y a peut-être des Kawhi Leonard, des Paul George qui sont à peu près à ce niveau-là, mais qui sont lui est un intercepteur franchement extraordinaire qui arrive toujours à lire le jeu de passe, même des meilleurs meneurs. C'est vraiment un poison en défense. Au-delà du fait de bien défendre, c'est aussi un très bon intercepteur.
Et les gars, il y a une chose dont on n'a pas parlé, on parle de ses différentes qualités techniques, physiques, on n'a pas parlé de son état d'esprit sur le terrain, de sa hargne, de sa détermination, de la dureté avec laquelle il joue et pour laquelle il est souvent loué et qui est très liée à son parcours aussi, Samy.
Il est formé à l'école Thibodeau, qui est une école de si tu n'es pas blessé, tu peux jouer 48 minutes, en grosso modo. Et il a eu d'énormes temps de jeu, il a été confronté à d'énormes charges de travail très tôt en NBA et c'est un joueur un peu un des hommes de fer de cette NBA en fait. Il a toujours des petites blessures sur ses parcours en playoff. L'an dernier, je crois que c'était le genou au milieu de la série contre Boston. Là, il se fait une cheville tout début de série contre New York et il manque pas tant de temps que ça finalement, il revient directement parce qu'il y a cet état d'esprit de je veux gagner, mon équipe compte sur moi en fait. C'est une des superstars les plus collectives peut-être. Jimmy Butler, il parle jamais vraiment la première personne sur ses confs de presse. Mes coéquipiers veulent que je prenne ces tirs, j'ai pris ces bons tirs car mes coéquipiers continuent de me donner le ballon, mes coéquipiers ont continué de me dire d'être agressif. C'est pas un joueur qui va être très égoïste et c'est un joueur qui s'est forgé ce mental, cette envie de gagner. Il a une histoire au-delà du basket, il y a une histoire peut-être compliquée. C'est sa mère, entre guillemets, l'a jeté dehors alors qu'il avait 13 ans. Il a trouvé une mère adoptive.
Son père avait quitté la famille juste après sa naissance.
C'est ça, à 13 ans, alors que sa mère le met dehors, ça aurait pu
sa mère
mal
lui a
tourner,
dit, en gros, ta tête ne me revient pas, dégage. Et à 13 ans, donc, il s'est retrouvé un peu à vivre un peu, à dormir dans des voitures, un peu être quasiment SDF. Après, il a été, tu l'as dit, sauvé par cette femme, et donc par surtout un de ses amis qu'il connaissait, qui est devenu après un joueur en NFL, dont j'ai oublié le prénom, mais c'est ce qui a aussi forgé, on va dire, son caractère. C'est pour ça, c'est ce que disait Max, il est toujours dans l'adversité, en fait, parce qu'il l'a toujours été, même dans sa vie avant le basket, quoi. Et sur le terrain, c'est un chien, quoi. C'est un chien enragé, il en veut toujours plus. S'il faut aller au contact, il y va. S'il faut déclencher une bagarre pour réveiller un petit peu les collègues, il y va. Il est toujours en première ligne. S'il faut mettre un pain à quelqu'un, bah, il y va aussi. Franchement, c'est un joueur qui prend ses responsabilités constamment. Et pour moi, en fait, c'est typiquement, même si Miami n'a pas fait une saison régulière extraordinaire, tu sais que si tu vas affronter Jimmy Butler en playoff, eh ben, tu vas y laisser des plumes quoi qu'il arrive. Quoi. Tu ne vas pas le battre facilement. Il va t'embêter jusqu'au bout. Si tu dois le battre, eh ben, tu vas douiller. Quoi, parce que ça va vraiment être compliqué. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça aussi, c'est aussi l'état d'esprit qui a vaincu Milwaukee au premier tour. C'est cet état d'esprit qu'il arrive à transmettre à ses équipiers. Et ça, je pense qu'on va y revenir assez vite. Ça n'a pas été le cas dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé.
Maxime, quand tu vas dans le vestiaire de Miami après les matchs ou quand tu assistes aux rencontres, est-ce que cette aura, elle se sent, elle déteint sur ses coéquipiers? Est-ce que cette rage, cette envie de gagner, ça contamine un peu les autres joueurs du Miami Heat? Comment tu le ressens, toi, au bord des terrains?
Bah alors oui et non, parce que c'est assez curieux sa personnalité, justement, parce qu'il est, finalement, comme je l'ai déjà dit, assez calme. Presque réservé dans le vestiaire et en même temps il a une espèce de leadership qui dégage qui fait que oui que tout le monde évidemment le suit quoi. Je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais évidemment pourquoi aussi il s'épanouit à Miami, c'est que voilà, c'est le leader de cette équipe et il y a lui, il y a personne à côté, donc je pense que ça se joue aussi. Et ce qui est assez vrai aussi, c'est que j'expliquais d'ailleurs encore hier qu'il y a une vraie grosse ambiance dans le vestiaire, que tout le monde s'entend extrêmement bien, que il a un rôle aussi qui est important pour être assez fédérateur. Il le disait hier que peu importe qu'on perde, qu'on gagne dans le vestiaire à la fin, on va tous s'amuser, s'éclater. On va mettre de la musique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est lui qui est en charge de l'enceinte et il a des goûts musicaux bizarres parce qu'il met de la country music sans arrêt dans le vestiaire.
Oui, c'est un grand fan. Il chante un peu d'ailleurs, non?
Fan de Taylor Swift aussi, je crois, j'avais vu.
Alors, je l'ai pas entendu chanter, mais il met l'ambiance, mais tout en restant assez calme. Et il a ses deux trois partenaires avec qui il discute, comme Kyle Lowry, qui est très proche de lui. Et voilà, c'est pas un grand bavard, mais en même temps qui sait mettre l'ambiance et qui sait redevenir aussi d'un coup sérieux, quoi, qui arrive à changer de mood assez rapidement. Ouais.
Peut-être aussi cet état d'esprit dont on parlait, c'est quelque chose qui colle à Miami, à l'image de cette franchise. Je te vois acquiescer, Samy.
Effectivement, à Miami, en fait, il y a des gens qui sont des gagneurs, quoi. Pat Riley, qui a un palmarès long comme le bras, comme entraîneur, comme GM. Eric Spoelstra, qui est là depuis 2009, qui a gagné deux titres avec l'entraîneur. Et effectivement, ça, c'est des joueurs c'est des dirigeants qui fusionnent bien avec un joueur comme Jim Butler qui veut gagner à tout prix. Et ils ont bâti une équipe autour de lui avec, pareil, des joueurs qui ont cet état d'esprit de revanche. Là, il a fini la série contre Milwaukee. Il y avait Jimmy Butler sur le terrain et ses quatre coéquipiers étaient quatre joueurs qui n'ont pas été draftés en NBA. Duncan Robinson, Gabe Vincent, Max Strus et Haywood Highsmith. Quatre joueurs qui, comme Butler, ont eu tout à prouver un moment. Et c'est pour ça que Miami, c'est un peu l'endroit parfait pour lui où il s'épanouit. En tant que leader, il va le dire, il recherchait ça aussi quand il part de Philadelphie. Il recherche d'être l'option numéro 1 dans une équipe, mais Miami était déjà en train de le courtiser avant, quand il voulait partir de Minnesota. Il a finalement atterri à Philadelphie, mais Miami était déjà sur les rangs parce qu'il y a ce joueur qui est là des deux côtés du terrain, qui se cache pas et qui fusionne avec cette culture de la gagne locale.
Juste, j'ai relevé une citation d'Eric Spoelstra, l'entraîneur du Heat, donc dans une interview qu'il donnait au Ringer il y a quelques années déjà, à propos de Jimmy Butler. Il disait, s'il hurle, s'il crie, s'il nous aboie dessus, on le prend pas personnellement, c'est notre langage, j'aime bien ça personnellement. Donc. Sandro, c'est vraiment ça l'esprit du Heat, une espèce de dureté de...
Ouais, c'est presque la... finalement, c'est la Heat culture, quoi, de ce qu'on entend souvent, ce que les joueurs du Heat revendiquent assez souvent. Moi, je pense que cette place de leader, bon, alors, je pense que ça lui fait plaisir de l'être, mais je pense que c'est pas forcément très central dans ses objectifs. Je pense qu'après, Jimmy Butler, il aime bien être payé, on va dire, à sa juste valeur, mais je pense pas qu'il ait cette envie, forcément, d'être au centre du jeu. Ça le gêne pas, de pas prendre le dernier tir. Moi, je pense qu'il a toujours eu besoin d'avoir une équipe qui lui ressemble en termes d'état d'esprit. Moi, j'étais assez étonné de voir, par exemple, qu'il s'entendait merveilleusement bien avec un joueur comme Tyler Hero, qui est à peu près l'inverse de Jimmy Butler sur un parquet, qui est plus sur les tâches offensives, qui prend des tirs un peu sans réfléchir, même si c'est plutôt un bon joueur. Hein. Et Jimmy Butler adore ce joueur. Et pourquoi il l'adore ? Parce qu'il est comme lui, c'est un dur au mal, c'est un chien, c'est pas forcément un gros défenseur, mais il se donne. Et en fait, Jimmy Butler, ce qu'il demande à ses coéquipiers, c'est d'être avec le même niveau d'implication que lui. Et si vous donnez ce niveau d'implication à 100% comme lui, eh ben il vous accepte.
C'est ça, c'est peut-être le joueur le plus exigeant avec ses coéquipiers. Et c'est, ça n'a pas toujours bien fonctionné dans les autres franchises où il a pu évoluer.
Non, je vais faire le pont avec ce que vient de dire Sandro. En fait, j'ai retrouvé moi aussi une phrase qu'il avait donnée alors qu'il était à Minnesota, donc en milieu des playoffs de sa série perdue 4-1 avec Minnesota contre Houston au premier tour de la Conférence Ouest en 2018. C'est sa seule série qu'il a disputée à Minnesota. Et il avait dit « Je donne tellement à ce jeu, je joue juste pour gagner les matchs. Je ne joue pas pour les stats individuelles, pour les titres, pour le palmarès individuel, mais parfois, je me sens perdu quand je vois que certaines personnes ne sont pas construites de cette façon. » On y reviendra, c'était évidemment un missile.
Téléguidé vers Carl Anthony Towns,
c'est un missile à tête chercheuse. Voilà. Et en fait, c'est pour ça aussi que ça ne marche pas forcément dans certaines franchises. Je pense quand même qu'à Miami, il voulait être leader parce qu'à Philadelphie, on y reviendra, il part parce que Brett Brown, notamment, lui enlève le contrôle du ballon au profit de Ben Simmons pendant les playoffs. Mais effectivement, tu as raison, il demande d'abord à ses coéquipiers d'être aussi exigeants que lui envers eux-mêmes.
En fait, ce que je veux dire, c'est que il est leader, effectivement, il est leader déjà sur le parquet, ça se voit parce que c'est lui souvent qui dicte le jeu, qui s'il doit prendre ses responsabilités, c'est lui qui va faire, mais c'est aussi lui qui annonce les systèmes, c'est-à-dire que c'est pas un leader, on va dire qui est omnibulé par ses statistiques, c'est-à-dire si à un moment il doit faire une passe à Adebayo, s'il doit mettre dans un bon spot Tyler Hero, et ben il va le faire. Même si on est à 2 minutes de la fin du match et que le score est à égalité et qu'ils font un Hero dans un match, et ben justement, ça peut être Tyler Hero ou ça peut être Bam Adebayo et pas forcément Jimmy Butler.
je voudrais revenir au côté jeu de Jimmy Butler. On a dit un très bon joueur en saison régulière, mais voilà, cette année, il n'est pas sélectionné pour le All-Star Game. Et les playoffs arrivent, et là, on découvre un autre Jimmy Butler, intenable, capable de mettre 56 points face aux Milwaukee Bucks. Maxime, c'est un joueur différent en playoffs, Jimmy Butler, même s'il refuse le qualificatif. Hein.
Il a un deuxième surnom d'ailleurs, vous avez parlé de Jimmy Buckets, mais c'est aussi avant tout Playoff Jimmy, hein, qui se révèle dans ces grands moments-là. J'ai regardé un peu ses stats, et je crois que c'est quand même un des rares joueurs qui a des meilleures stats en playoff qu'en saison régulière. C'est quand même assez dingue et assez parlant. Et je pense qu'il en fait, il a assez bien compris le fonctionnement de la NBA sur le fait que la saison régulière est très longue, qu'il faut monter en puissance tout doucement jusqu'au playoff. Si vous reprenez ses interviews d'ailleurs cette année, toute la saison, il a dit la même chose. On est en octobre, il dit vous verrez, on sera en play-off, on ira très loin, on a une équipe qui est taillée pour le championnat, pour gagner le championnat. Vous prenez ses interviews de décembre, janvier, alors que Miami est 9e, 10e, 11e de la conférence Est, il continue à dire la même chose. C'est un marathon, vous allez voir, et on sera au bout, et vous verrez qu'on ira au bout. Ben, voilà, quelques mois après, on a vu les performances qu'il a sorties en play-off pour l'instant. Ils vont a priori se qualifier pour les finales de conférence et peut-être pourquoi pas aussi aller plus loin, mais ça montre aussi sa mentalité. Et là-dessus, d'ailleurs, on n'en a pas parlé parce que son éthique de travail, elle est quand même aussi assez dingue. Moi qui l'ai suivi sur la série, là, c'est assez cliché de dire ça pour les grands joueurs qui bossent plus que les autres, mais pour Jimmy Butler, c'est le cas. C'est-à-dire que l'échauffement, 2 heures avant, c'est le premier qui est sur le terrain en train de s'échauffer. À la mi-temps, il ressort le premier pour retirer des shoots encore. Et ce qui était marrant, dans le match 1, c'était à New York, au Madison Square Garden, à 13h. La veille, le soir, à minuit, 1h du matin, il était dans une salle de New York en train de shooter. Il est resté 1h, 1h30 en train de taper des shoots. Et voilà, ça montre aussi à quel point c'est un bosseur et à quel point il a une exigence de travail aussi.
Ouais, tout ça, ça fait la synthèse un peu de ce qu'on dit depuis le début et de son état d'esprit, quoi. C'est que pour lui, la saison régulière, c'est du paraître, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ce qui compte, c'est les playoffs et parce que les playoffs, c'est ce qui vous fait gagner des titres, quoi. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ça, parce que au final, Jimmy Butler, il a toujours pas de titre, hein, pour l'instant. Il est toujours pas bagué. Jimmy Butler, il a joué une finale NBA dans la bulle face aux Lakers, où d'ailleurs la Miami avait été extraordinaire. Mais pour l'instant, il a un palmarès vierge, enfin collectif vierge, et je pense que ça doit lui peser pas mal parce que chaque année, un ou deux mois avant le début des playoffs, il est toujours en train de dire ouais, alors là, c'est maintenant que ça va commencer parce qu'avant, c'était pas très important et là, on va se donner à fond. Et encore une fois, Miami, pas hyper bien classé en régulière et en train de déjouer tous les pronostics, quoi.
Mais alors, justement, tu le dis, Sandro, toujours pas de bague, toujours pas de titre pour Jimmy Butler. Est-ce que, du coup, Samy, on peut dire que c'est un vrai bon leader? Est-ce qu'il manque pas quelque chose pour emmener ses équipes au bout? Il a fait partie de très fortes équipes à Chicago. Je pense surtout à Philadelphie avec Joel Embiid, Tobias Harris. C'était quoi le 5? J.J. Redick, Ben Simmons. Bon, voilà, on attendait peut-être plus de cette équipe. Est-ce que la personnalité de Jimmy Butler peut pas à un moment être tellement clivante que ça empêche certaines très bonnes équipes d'aller plus loin?
Effectivement, comme tu l'as dit, en fait, c'est un leader. Parfois, par moment, un leader charismatique et parfois, par moment, un coéquipier très exigeant, voire peut-être toxique aux yeux de certains, comme un Carl Anthony Towns ou un Andrew Wiggins. En fait, à Philadelphie, ce qu'il a fait ne pas re-signer, on en a parlé un tout petit peu, c'est que au milieu des playoffs, Brett Brown confie les responsabilités du jeu, le ballon, à Ben Simmons, en fait, le chargeant de construire le jeu des Sixers. Et ça, Butler, il a pas aimé, parce que Butler, c'est à lui qu'on confiait les gros tirs avant que Kawhi Leonard n'envoie tout Philadelphie en vacances avec peut-être le tir le plus clutch de tous les temps. C'est Butler qui égalise d'un lay-up. Et cette équipe-là, c'était presque la sienne, en fait. Joel Embiid n'était pas aussi fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, avec du recul, quand on voit les noms, effectivement, on se dit c'est décevant de voir qu'ils se sont arrêtés en demi-finale de conférence. Après, c'est eux qui poussent le plus loin le futur champion cette année-là. Mais il a pas voulu rester parce que il sentait pas trop cette. En fait, tu l'as dit, il sentait pas trop cette culture à Philadelphie, tout simplement. Il savait pas. Il le disait dans un podcast avec Redick, justement. Je savais pas qui était vraiment en charge dans cette équipe. Il manquait une voix qui est celle de Spoelstra, celle de Pat Riley aujourd'hui. Donc c'est un leader. Il faut quand même un cadre pour qu'il s'exprime en tant que leader. Et à Minnesota, bah, on s'est ressurgi un petit peu.
Ouais, puis à Philly, avant que tu démarres le chapitre Minnesota, à Philly, il y avait un petit peu d'amertume aussi envers Tobias Harris, qui avait été sélectionné un petit peu avant lui, avant la draft. Et c'est un truc qu'il a jamais, il a jamais digéré. Hein, 19e Tobias Harris cette année-là, en 2011. Et à chaque fois, c'est vrai que dans plein d'interviews, on l'entendait dire Tobias Harris over me. Donc on a pris Tobias Harris avant moi, quoi.
Surtout on l'a pris avant lui. Ouais. Pas payé avant lui, mais on l'a payé plutôt que lui dans son esprit. C'est quand il est parti de Philadelphie, Tobias Harris lui a signé un contrat max là-bas.
Et ça c'est un truc qui est souvent revenu, mais je pense qu'aux Sixers, le problème c'était que il y avait un peu trop de mal alpha, on va dire, et des mal alpha très différents. On avait un Ben Simmons très taiseux, un Joel Embiid qui commençait à devenir une vraie superstar.
Et qui s'entendait très bien avec Jimmy Butler, d'ailleurs.
Exactement, mais d'ailleurs, deux caractères de cochon, quoi, un petit peu. D'ailleurs, c'est très marrant parce que ce qu'on est en train de dire, notamment sur Jimmy Butler, qui a envoyé des missiles incroyables à Karl Anthony Towns, notamment. Bah, Joel Embiid, il a fait un peu pareil avec Ben Simmons, quoi. Quand ça s'est pas très bien passé à Philly, c'est un peu le même modèle, quoi. Donc, et c'est vrai, tu le dis, hein, je crois que c'est d'ailleurs Joel Embiid au début des playoffs, je sais plus pourquoi on lui a posé cette question. Il avait dit que Jimmy Butler avait été l'un des meilleurs coéquipiers avec lesquels il avait évolué et que ça avait été un vrai plaisir, quoi. Pourtant, ça fait déjà quelques saisons qu'ils évoluent plus ensemble, mais ils ont gardé, parce que je pense que vraiment, pour ça, Jimmy Butler, c'est très important. C'est un peu, il jauge les gens par rapport à ce qu'ils sont capables d'offrir sur le parquet. Je pense qu'il supporte pas les joueurs qui sont talentueux mais qui ne bossent pas. Et ça, c'est exactement, je vais te laisser après enchaîner avec Minnesota, mais c'est exactement ce qu'il reprochait à Karl Anthony Towns, c'est-à-dire, ok, tu es très talentueux, ce que n'était pas forcément Jimmy Butler au début, mais tu ne travailles absolument pas. Et mais ça, c'est un truc qui le rend dingue.
Exactement, de voir qu'un joueur n'extrait pas 100% de son potentiel, ça doit le rendre complètement malade, d'autant que lui, bah, personne ne l'attendait en NBA. Et pour ouvrir le chapitre Minnesota, qui est revenu sur le devant de la scène, puisque Jeff Teague, le meneur de l'époque, a raconté peut-être
les coulisses.
L'entraînement le plus fou de ces 30 dernières années. Donc Jimmy Butler, pour le contexte, qui vient de finir sa première saison à Minnesota, 4 jours après, il demande son trade. Il dit « je ne veux pas faire partie de cette équipe où il y a Karl Anthony Towns ».
Il y a aussi une question, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi une question d'argent, parce qu'il voulait être payé, on va dire, il voulait un contrat max-max, et les dirigeants de Minnesota se tâtaient, quoi, et ça, il ne l'a pas supporté non plus.
Et du coup, en fait, il n'y a pas de nouvelles de Jimmy Butler jusqu'en octobre, et un jour, début octobre, il revient au camp d'entraînement, ou début septembre, il revient au camp d'entraînement sans crier gare. Et Thibodeau est enchanté, lui il le veut dans l'équipe, et il dit bah, on va faire les titulaires, donc Butler avec Wiggins, Towns, Teague qui raconte l'anecdote et Taj Gibson contre les remplaçants. Et Butler fait non, moi je joue pas avec ces titulaires là, il va prendre les remplaçants des remplaçants et il va botter les fesses du 5 titulaire dont Towns.
En insultant à peu près tous les joueurs sur 3 générations, sur chaque
toute
possession.
La franchise du président à...
Oui, parce qu'il y avait donc des dirigeants qui étaient dans les tribunes de ce petit parquet, et à chaque fois qu'ils marquaient un panier ou qu'ils faisaient une passe décisive, ils les regardaient en leur disant « vous avez intérêt à me payer, bande de nanana », tout ça, quoi.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'a pas tellement marqué sur
non,
ce...
Justement,
il faisait beaucoup de jouer.
Il met 2 paniers.
Il gagne 18-6 et il met 1 ou 2 paniers sur
les
sourcils.
Il met 2 paniers, ouais. Et surtout, il commence ce pick-up game par 2 interceptions sur Karl Anthony Towns, et à chaque fois, donc c'est 2 seuls paniers, hein, et à chaque fois qu'il va marquer, ensuite il va voir Karl Anthony Towns en l'insultant.
Et à la fin de l'entraînement, il enlève son... Parce qu'il s'est entraîné en survêt, en plus, c'est ça qui est fou. Il s'est entraîné en survêt et il dévoile le maillot de Minnesota où il a coupé Minnesota. Donc il s'entraîne à moitié torse nu.
Il a coupé au ciseau les lettres Minnesota.
Le message était clair, c'était... Sortez-moi d'ici et au plus vite.
Juste une dernière chose, parce que cette anecdote est quand même extraordinaire, c'est que ce pick-up game est remporté par Jimmy Butler et les remplaçants. Jeff Teague les qualifie de joueurs, de bons joueurs, mais qui ne pourraient pas faire partie du banc des Wolves, quoi. Ça veut dire que le niveau ne devait pas être fou, quoi. Donc ça en dit long déjà sur le niveau qu'il a et sur le fait qu'il peut rendre ses coéquipiers meilleurs. Le mieux, c'est que les titulaires, un peu enragés, un petit peu revanchards, demandent une revanche. En fait, Jimmy Butler a déjà quitté le camp d'entraînement et une heure après, il est à la télé sur ESPN en train de dire « Bon, bah voilà, je leur ai mis une raclée à l'entraînement. De toute façon, ça ne le fait pas avec cette équipe. » Enfin voilà, c'est pour vous dire quel joueur c'est, quoi. C'est un peu un phénomène, quoi. C'est un génie aussi de la communication, quoi. Et effectivement, quelques jours après, il est tradé à Philly.
Bon, on a bien décortiqué ce phénomène Jimmy Butler, que ce soit aussi bien sur le plan technique que sur le plan du caractère. Juste peut-être pour conclure ce podcast, Maxime, j'aimerais revenir vers toi. Jusqu'où cette équipe du Heat, elle peut aller? Est-ce que tu as l'impression qu'on parlait de son état d'esprit, que là, tout se passe bien, que tout le monde est sur la même longueur d'onde et qu'il est capable de sublimer cette équipe pour passer encore un tour, deux tours, aller chercher le titre?
Complètement, mais c'est dur d'imaginer quel est leur plafond de verre et on va quand même pas trop s'avancer parce que moi je vous dirais que ça reste quand même un outsider, mais bon, on sait jamais avec Butler et son Heat. Mais bon, je pense que déjà il y aura pas trop de mal à finir la série comme tout à l'heure je disais face à New York. Après, ça s'annonce quand même compliqué face à Boston ou face à Philly, donc bon, on verra. Je pense que finale de conférence, ce sera déjà une saison assez réussie pour eux, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise.
Bien, merci messieurs, merci d'avoir participé à ce podcast spécial Jimmy Buckets. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Step Back sur le site L'Équipe et sur tous les supports de streaming. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation. À très bientôt. Ciao.